9h, Juliette et Charline sont dans l'ascenseur qui mène au bureau. Guillaume arrive.
Attendez, attendez, bloquez la porte, partez pas, partez pas. Merci, merci les filles.
Attends, c'est marrant ça, tiens.
Bah non, c'est Céline Dion ça. Hein.
Non, ce qui est marrant, c'est qu'on se retrouve tous les trois dans l'ascenseur au même moment, alors qu'en fait on est venus chacun.
Qu'est-ce que c'est, quoi ça?
Une panne?
Oh là.
Ne paniquons pas.
Non, non, attendez, personne ne panique. Taisez-vous, j'appuie sur le bouton de la maintenance.
Ouais, non, paniquez pas, c'est juste une panne bénigne. Ah. L'ascenseur va repartir. Ok.
10h, toujours dans l'ascenseur.
Ah là, c'est plus ce qu'on appelle une panne bénigne, ça. Hein.
Juliette, tu peux me passer l'autre moitié du journal quand j'avance un peu, là?
Eh ben non, non, parce que moi j'en ai fait une poche pour respirer dedans, pour ne pas paniquer.
Tu vois, Charline, quand t'as dit c'est marrant qu'on se retrouve tous les trois pile au même moment dans l'ascenseur, tu nous as porté l'œil.
Ou alors, c'est pas le hasard.
11h, toujours dans l'ascenseur.
Mais qui aurait intérêt à nous garder enfermés?
Bah, il y a tellement de gens qui ont intérêt à nous faire taire, la question c'est qui n'a pas intérêt à nous faire taire.
Ouais, c'est vrai, ouais.
Je sais pas si c'est mieux que je panique ou que je fasse un malaise vagal.
Midi. Idem.
Alors, pile le jour, on reçoit la scénariste de la série Où c'est qui? Bah, comme par hasard, là, on est coincé.
On peut même pas tweeter, ça capte que dalle ici. Ouais,
comme par hasard.
Aïe, aïe, aïe.
C'est chiant, hein? Vous allez démarrer en retard.
Mais, c'est Fabienne Sintès?
Oui, parfaitement, elle-même. Alors, c'est chiant, hein, de commencer à la bourre. Je vous débloque que si vous me promettez de rendre l'antenne à 18h00. C'est pigé, les morveux?
Oui,
Fabienne. Ça y est!
Ah, bah c'est pas trop tôt! Moi j'étais juste descendu pour aller chercher les figolus pour faire une synthèse.
Ça alors moi aussi, c'est ce qu'elle m'a demandé. Bah, et toi, Juju?
Mais moi pareil!
Oh, bah, c'est marrant ça!
Oh, bah, c'est fort de café!
Bonjour la France Inter et bienvenue au Centre National de la Vanne Radiophonique, dont voici la devise « Douralex, cette Castex ». Voici le sommaire amorcé par Juliette Arnaud.
Lundi, il y a 10 jours, à Paris, une manifestation pacifiste contre les violences policières a valu à ses participants une cinquantaine de contraventions au motif d'une participation à un rassemblement non déclaré. Problème, cette infraction n'existe pas.
Oui, mais...
Certaines manifestations de non-violence agacent tellement qu'elles appellent un peu à la violence.
Le coach de vie est une sorte de cabinet McKinsey personnel. On le consulte pour devenir plus performant ou pour aider à traverser une mauvaise passe. Et en ce moment, le contexte crée de la demande. Le secteur du coaching est devenu très lucratif.
C'est moins fatigant de profiter du malheur des autres que de construire son propre bonheur.
T'es l'enculé le plus lucide sur lui-même que je connaisse.
La réalité historique ou sociale devient la matière première des séries qui sont diffusées sur les plateformes. Avant, le feuilleton était pur divertissement. On s'en éloigne pour approcher le documentaire, mais dans le fond, on y retrouve les mêmes thèmes.
C'est l'histoire d'une idiote qui aime toute sa vie un imbécile, mariée à une conne.
À mes côtés, aujourd'hui sans transition.
Oui.
Ouais. Juliette Arnaud, rebonjour.
Rebonjour Charline, et en l'honneur de notre invité, une équipe de chroniqueurs qui sait s'emparer des vrais sujets. Avec d'abord celui dont, il le sait malheureusement, la saison de la raclette est close, on pourrait le croire démuni, affaibli, désemparé, que nenni, écoutez! C'est le son du corps qui signale l'ère des barbecues et son gai ménestrel. Bonjour Aymeric Lomprey.
Bonjour.
De quoi est-ce que vous... On peut arrêter avec le corps. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Aymeric?
Aujourd'hui, j'ai fait une chronique sur l'actualité.
Voilà. Je n'y crois pas une seconde. Gustave Flaubert disait « Il n'y a pas de beau ni vilain sujet, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses ». Lui aussi, il dit ça. Flaubert, évidemment, ne parlait pas de style vestimentaire. Lui non plus. Bonjour Guillaume Meurice.
Bonjour Juliette, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler du pot de départ de Jean Castex. C'était hier soir. Je suis donc allé voir les Français ce matin qui ont beaucoup de choses à dire, notamment sur le bilan de Jean Castex.
Oh.
Voilà, on a fait le tour. On était assez complet, je trouve.
Et enfin, le Monde, germano-pratin n'étant pas prêt, la rumeur prétend qu'elle vient de publier anonymement un essai intitulé « Accorder son sac et ses chaussures » ou l'inverse. Osons parler des vrais problèmes. Bonjour Clara Dupont-Mono.
C'est une question cruciale. Oui, bonjour Juliette Arnaud, bonjour à tous. Nous allons parler des derniers jours de Romy Schneider.
Ah, très bien. Et voici celle qui est un petit peu l'élément modificateur du schéma narratif de cette émission. Je vous laisse nous annoncer que vous êtes...
Faïza Guen.
France Inter. Charline Vanhoenacker. Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Faïza Guen.
Merci beaucoup de me recevoir.
Mais avec joie, vous êtes romancière et scénariste, et l'une des scénaristes de cette série formidable, Oussekine, n'est-ce pas Juliette?
Oui, alors Oussekine, c'est une mini-série en 4 épisodes, et c'est le récit de ce qui n'a pas été un fait divers. L'affaire Malik Oussekine, le 6 décembre 1986, un jeune homme qui s'appelle Malik Oussekine, 22 ans, étudiant à la Sorbonne, qui vient de vivre un moment historique selon lui, puisqu'il est à un concert de Nina Simone, rentre chez lui dehors. C'est un peu le chaos, c'est la fin d'une manif étudiante, une brigade motorisée, les voltigeurs, est chargée de nettoyer le quartier. Le jeune homme s'affole, il court, il est pris en chasse, à pied, jusque dans un hall d'immeuble, il est roué de coups, il meurt. C'est aussi, cette série, le portrait déchirant d'une famille qui était soudée et aimante, d'origine algérienne, et dont le petit dernier vient d'être assassiné par des gens en uniforme. Une mère, 5 enfants, une mère qui pense que ses enfants, et je la cite, se sont pris pour des Français. Faïza Guen, vous êtes née en 1985, donc vous n'avez pas de souvenir direct de l'affaire Malik Oussekine. Alors, comment la première fois vous avez rencontré le nom de Malik Oussekine et comment avez-vous décidé de passer le temps qu'il faudrait pour raconter cette histoire qui est aussi celle de la France?
J'ai aucun souvenir de la première fois que j'ai entendu le nom Malik Oussekine, et à la fois j'ai le sentiment d'avoir toujours entendu ce nom, de le connaître. Ce nom, il est comme un fantôme qui nous hante, et en fait, grâce à Antoine Chevrolier, qui est le créateur de la série Oussekine, on a enfin pu explorer ce qui avait comme histoire derrière ce nom. C'est son idée à lui, c'est lui qui porte cette histoire depuis des années. Et en fait, il en a entendu parler pour la première fois dans un morceau d'Assassin. Qui faisait partie de la BO de La Haine à l'époque, donc en 94-95, qui s'appelait L'État assassine. Et c'est à partir de là que l'idée a germé. Donc il est venu me chercher en 2020.
La Haine, le film lui-même est né
absolument.
De faits divers.
Absolument.
Nourri par les faits divers de l'année 93.
Par une violence policière en particulier, ouais. qui avait touché un jeune homme dans le 18e arrondissement à l'époque. Donc oui, c'est un peu cette continuité-là. Et donc en fait, voilà, Antoine, il avait envie de développer cette histoire. Et il a constitué une équipe d'auteurs. Avec Julien, je cite mes camarades,
bien sûr.
Julien Lilti, Cédric Hido, donc Antoine Chevrolier et Lina Soalem, qui nous a beaucoup aidé aussi à la documentation, aux archives, etc. Il y avait un gros travail en plus de ce côté-là. Voilà, donc ça m'a paru évident. Pour moi, c'est comme s'il m'amenait, il me faisait un cadeau, parce que en lien aussi avec le travail que je fais depuis quelques années dans mes romans, j'avais l'impression que c'était exactement le sujet qu'il fallait pour moi à ce moment-là.
Mais d'une manière pour boucler, ça vous semblait aussi le moyen de boucler une chose, une compréhension ou une plaie ou...
En fait, c'était l'histoire singulière d'un jeune homme donc d'origine algérienne et surtout d'une famille, mais qui racontait l'histoire de France. Donc pour moi, il y avait vraiment ces deux choses-là qu'on pouvait faire en même temps. C'est de traverser l'histoire française à travers une histoire très singulière d'une famille singulière avec ses spécificités et son histoire particulière, voilà.
Alors justement, dans cette famille, donc il y a 5 enfants, avec
Don Malik.
Don Malik. Ouais. Et il y a une mère qui, elle, va choisir, du fait de sa génération, en partie, et de son origine, de choisir le silence. Et puis, elle a une de ses filles, la plus jeune, Sarah, qui est un des personnages principaux de la série, qui, elle, au contraire, va choisir de se parler. Et donc, c'est le portrait d'une mère et d'une fille, une qui sait, une qui parle. Et puis, il y a... le seul moment, en gros, où la mère va dire une chose, elle va dire une chose, à mon avis, essentielle. Elle va dire à Sarah, entre quatre yeux, « Tu es la plus courageuse de mes fils. » Est-ce que cette phrase, elle est de vous?
Comment vous savez? Bah, enfin, c'est horrible de dire ça. Elle est de moi. C'est vrai que c'est les meilleures phrases de la série, c'est moi. C'est quand j'y repense. Non, mais bien sûr, il y a cette question, en fait, de aussi la place de la sœur parmi les frères. Et c'est ça qui était génial, c'est que la série nous permet d'explorer aussi ces sous-sujets, en tout cas, autour de la trame de cette affaire terrible. Il y a aussi la famille, ce que c'est la famille, la fraternité, et aussi une famille qui va exploser, en fait, qu'on raconte. Donc, il y a aussi toutes ces problématiques qui sont questionnées. La problématique de la place de la fille avec les frères, voilà.
Ouais. Et cette série est remarquable aussi par l'empathie qu'elle suscite à travers les personnages, justement. On parlait de la famille. C'est d'ailleurs l'empathie qui nous mène, d'une certaine manière, vers la compréhension du contexte historique et social et de cette histoire en particulier. Vous qui êtes romancière, comment est-ce qu'on fait pour trouver le ton de l'empathie, l'écrire cette empathie pour qu'elle soit jouée et qu'elle transpire et qu'elle nous amène à l'histoire?
Je sais même pas si c'est l'objectif quand on écrit de se dire il faut absolument qu'on suscite de l'empathie. Je pense que naturellement, quand on s'attelle à une histoire pareille, déjà je vois pas comment on peut travailler sur ce sujet sans avoir un minimum d'empathie. Je pense que c'est impossible. On a tous vraiment posé nos tripes sur la table, c'est mon expression, mais vraiment littéralement c'est ce qu'on a fait. Et on avait envie surtout en fait d'amener les gens à regarder cette histoire autrement, de regarder ces gens autrement. Et même tout ce qui est politique dans la série, c'est vraiment par le prisme de l'intime qu'on avait envie de l'aborder. Donc naturellement, on a surtout essayé d'être juste. C'est-à-dire sur les faits historiques, sur l'affaire, on s'est dit, bon, le plus important, c'est la véracité. C'est vraiment d'être exact. Et sur tout l'aspect fictif et l'aspect de cette empathie, de cette famille, sur l'émotion, en fait, on a voulu être authentique. Mais ça, c'est un chemin qui est assez naturel, en fait, entre nous. Voilà, c'était naturel pour
nous. Et avec beaucoup de pudeur aussi, Faïza Again, pour cette mini-série, 4 épisodes de 60 minutes, la série Oussekine, et qu'on peut voir à partir d'aujourd'hui sur la plateforme, tenez-vous bien, Disney+. Eh oui, tout c'est marrant. Bah ouais, mais bon, le service public l'a pas pris, comme dirait Télérama. Alors, bah c'est Disney. Et tant mieux. Comme ça, on peut voir cette série dont on va reparler, bien sûr, avec vous dans Par Jupiter, où il y a aussi Clara Dupont-Monod, Aymeric Lompré, Guillaume Meurice. The Jam, Town Called Malice sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Faïza Again est en notre compagnie. Elle a co-scénarisé la série Oussekine avec un très joli casting et notamment Saïd El Alami dans le rôle.
Formidable.
Voilà. Et Yam Abbas qui joue sa maman. Ouais. Magnifique actrice.
Et nous avions on est tous amoureux d'elle. Non, mais tellement. Moi, elle lève un sourcil, je pleure. Je la trouve.
L'émission avec elle est disponible en podcast. C'était l'époque. Si tu écoutes, j'annule tout. Yam Abbas, Malek Lamraoui aussi, Naïdra Ayadi, et puis il y a Kad Merad en Maître Kijman, il y a Laurent Stocker de la Comédie Française, Slimane Dazi et
Mathieu
Demi.
Ouais,
et Olivier Gourmet.
Thierry Godard, oui. Olivier Salem, ils sont nombreux et tous, voilà.
Très talentueux. Pour entourer notre invité, Juliette.
Mais des gens également très talentueux. Clara Dupont-Monod, Aymeric Lompré, et puis des médiocres. Guillaume Meurice.
Et l'actu.
Il faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Le journal de presque 17h17.
Non mais c'est formidable, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vos impôts. Ce sont des gens qui font de la propagande avec votre argent. C'est ça, France Inter.
C'est vrai, on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera
alors,
de...
Alors, deux surligneurs, une lampe de bureau. Ouais. Tiens, c'est ta graffeuse, c'est la mienne ou c'est la vôtre, Charline, la graffeuse hein?
Bah, je sais pas, vous faites quoi, Guillaume?
Alors, je fais mes cartons, ouais. Ça y est, la redevance va être supprimée, là, 2022, il a dit Macron, donc on est viré, là, c'est foutu.
Mais pas encore, non, restez concentrés, allez.
Non, c'est foutu,
donc, Charline. Dans ce journal, on parlera aussi
ah,
de...
Ah, tiens, oh, ouais. J'ai un tiroir avec toutes les blagues d'Emery Clompré. Ah, bah, je les prends, de toute façon, ils s'en servent plus depuis longtemps.
Non, mais arrêtez de ranger, Guillaume, je vous dis qu'on n'est pas viré. Et enfin, dans ce journal, on parlera. De. Attendez, parce que c'est quoi tous ces cartons,
attendez,
Guillaume
là, c'est les courriers de plainte du CSA, j'en fais quoi, Charline?
Ah, oui, en effet, alors là, on est peut-être viré là.
C'est possible qu'on soit viré, hein, quand
cachez-les
même, hein. Bon. Allez, en attendant, on commence par la politique.
Oui, lors du dernier Conseil des ministres, hier matin, Emmanuel Macron a remercié Jean Castex, mais il n'a toujours pas donné le nom de son successeur et à mon tour. Je tiens à vous remercier, Guillaume.
Qu'est-ce que. Pourquoi vous dites ça? Vous voulez me remplacer?
Alors, j'ai pas dit ça. Et en même temps, je connais déjà le nom de celui qui pourra faire le journal avec moi l'an prochain.
Attends, ah oui, non, je comprends. Voilà. Ah, vous imitez Macron, ouais. C'est pour la blague. Vous m'avez fait peur. C'était une imitation.
Écoutez, si ça peut vous rassurer, on passe à la suite. D'après l'hebdomadaire L'Express, Christophe Castaner et Stanislas Guérini auraient été écartés des discussions autour des investitures pour les législatives.
Alors ça pose quand même une très bonne question qui est, est-ce qu'on n'en aurait pas à rien à foutre?
Eh bien écoutez, c'est oui.
C'est oui. Ce qui me semblait. Allez, c'est fait, on enchaîne.
Très bien. Pour Richard Ferrand, l'Union de la gauche est un rafistolage de circonstances.
Richard Ferrand, rappelez-moi, c'est bien l'ex-socialiste qui bosse avec Bayrou du Modem et Édouard Philippe, ex-LR.
Bah oui, pourquoi?
Non, je demandais, juste pour être. On est bien en tête.
Et puis selon un sondage, une large majorité de Français pensent que pour son second mandat, Macron doit donner la priorité au social et au pouvoir d'achat.
Bien sûr, une majorité de Français pense également que Nordal Lelandais doit être plus gentil et plus conciliant avec son prochain.
Pour Robert Ménard, une majorité pour Macron législatif serait un moindre moelle, dit-il.
Ah, ouais. Alors lui, il est pro-Zemmour. Après, il était pro-Le Pen. Maintenant, il est pro-Macron. Dans 3 mois, il colle les affiches Poutou 2027, c'est sûr. Il est chaud.
Alors, le syndicat policier Alliance attaque Jean-Luc Mélenchon en diffamation pour l'avoir traité de syndicat factieux qui demande le droit de tirer sur les gens.
Ouais, les plaintes d'Alliance, c'est comme celle de Morano. S'il y a 50 ans, t'en as pas, c'est que t'as raté ta vie. Vraiment. C'est bon signe.
Et puis, Jean-Yves Le Drian est convoqué le mois prochain devant la justice malienne.
Eh ben, c'est bien, ça va lui occuper sa retraite, à Jean-Yves. Mmh. Ça, c'est bien. Normalement, c'est plutôt le bridge.
Oui,
mais un procès au Mali, c'est bien pour la retraite.
C'est original.
Conseiller aux
économie à présent, suite à l'effondrement du stablecoin UST, le français Just Meaning se retrouve dans la tourmente.
Charlie, vous avez recommencé, j'ai l'impression.
Quoi ça?
Vous n'avez rien compris à ce que vous avez lu.
Ouais, mais je l'ai fait avec beaucoup de panache.
C'est vrai qu'il y avait du panache quand même. C'est
économie
bien,
toujours, bien. Airbnb veut toujours encourager les touristes à se tourner vers les destinations moins prisées.
Oui, et ça marche bien, ça démarre fort. Hein.
Ah bon, comment ça?
Jean-Michel Blanquer a loué un beau T2 à Montargis.
Ah oui, c'est vrai. Sport à présent.
La commission de discipline de la Ligue de Méditerranée de football a ouvert un dossier pour suspicion de fraude concernant le match Arles-Septem, conclu dimanche sur le score de 22-1.
Ah oui. Ça c'est déjà vu des fraudes dans le foot. Hein. Je pense notamment à une demi-finale de Coupe du Monde.
Non, oh là là, mais il faut passer le cap, hein, Charline. Non. Allez, on termine avec une brèche.
J'aimerais bien une fois qu'il y ait une série sur Disney Plus, l'affaire de la demi-finale.
Il
n'y
a pas d'affaire.
L'affaire avec l'élément modificateur, c'est les 60% de possession de balle. J'aimerais bien. Evry, un homme se balade avec un boa d'1,50 m sur l'épaule.
Eh ben, ça fait plaisir d'avoir des news de Patrick Bruel. Ça faisait longtemps.
Je sais pas, c'était peut-être PPDA.
Ah oui, c'est vrai.
On n'a pas vérifié. C'est vrai. Merci, Guillaume Meurice.
Pendant que Juliette explique les blagues du journal à Clara.
Oui, à l'oreille de Clara.
Fait,
alors,
à la suite.
Mais alors, donc, un boa, parce que c'est...
Non,
parce que...
Non. Tout le monde avait compris, sauf
d'accord,
Clara.
D'accord, très bien. Alors, Clara, vous expliquez la blague. Très bien. Allez, Faïzaguen est en notre compagnie. Hop, au boulot, Juliette Arnaud.
Dans le quartier latin à Paris, il y a 10 jours, il y a eu un rassemblement de policiers pour dénoncer la mise en examen pour homicide volontaire d'un des leurs. Et juste à côté, il y avait une contre-manifestation de quelques dizaines de participants pour dénoncer, eux, les violences policières. Et à la fin, ce sont les gens de la contre-manif qui ont chopé des contraventions au mépris, semble-t-il, de la loi. Il est licite de manifester à un rassemblement non déclaré, même à un rassemblement de ce genre-là.
Vive la France ! Vive
CRS égale tendresse. CRS égale tendresse.
Policiers, obéissez au chef.
Réprimez les manifestations.
Nous sommes fiers des violences policières. Nous sommes fiers des violences policières. Allez, allez, mettez-nous une raclée.
C'était un son du collectif parodique Manif de droite.
Oui.
Donc c'est pas pour de vrai. Par contre, il y a personne qui manifeste pour de vrai dans les rues de Paris en disant ça. Est-ce que, Faizagan, vous connaissiez cette loi qui dit que l'infraction de participation à un rassemblement non déclaré n'existe pas?
Eh ben non, je l'apprends. Je l'ai appris tout à l'heure. Alors vraiment, je tombe des nues. Mais c'est surprenant aussi parce que, bon, évidemment, c'est toujours à géométrie variable. Il y a des rassemblements et des manifestations où on voit s'afficher des croix celtiques et on entend des slogans qui font peur, quoi. Mais où c'est ok de le faire. Donc encore une fois, bon voilà, je voudrais pas être voilà, je dis ça, je dis rien.
Mais ils mettent quoi sur l'amende alors du coup? S'ils mettent des amendes, enfin il y a forcément...
Bah, ils mettent, justement, ils disent qu'il y a infraction après... parce que manifestation non déclarée. Okay. Sauf qu'ils sont hors des clous légalement parlant. Il y a des gens, des avocats, des gens d'Amnesty International qui...
Heureusement, sont vigilants. Dit,
voilà. D'accord. On vous a proposé ce sujet parce que ça s'est passé il y a 10 jours dans le quartier latin et la série commence dans le quartier latin et dans le premier épisode, on voit Robert Pandreau, qui est ministre de tutelle à l'époque, il me semble, de la
sécurité. Ministre délégué à la sécurité, ouais.
Voilà, ministre délégué à la sécurité, qui dit à son DIRCAB, je ne les laisserai pas faire le procès de la police. Quand vous avez commencé, donc là on est en 86, quand vous avez commencé l'écriture de la série, vous aviez conscience qu'il y allait avoir forcément un écho avec notre époque et ce qui s'est passé, par exemple, il y a un an et demi, deux ans avec les Gilets jaunes?
Bien sûr, c'est un écho, mais en fait, comme on l'a dit souvent, c'est vrai que au moment où on a commencé l'écriture, donc c'était autour de la rentrée 2020, c'est jamais le moment pour les violences policières, puisqu'en fait, malheureusement, c'est une continuité. Il y a des affaires qui émergent comme ça, en fait, régulièrement depuis très longtemps. Et d'ailleurs, dans la série, on remonte jusqu'à octobre 61 de cette manifestation pacifique d'Algériens qui réclamaient pacifiquement l'indépendance, qui a été réprimée dans un bain de sang. Donc on montre aussi que ce sont des méthodes qui sont anciennes et qui se reproduisent malheureusement à chaque fois. Donc il y avait un contexte. 2020, évidemment, c'est George Floyd et on nous a déjà parlé de ça, mais c'est pas ça qui a déclenché l'envie de faire cette série. Parce que malheureusement, il y a pas un moment propice pour raconter ça. Ça fait longtemps que ça aurait dû être raconté.
Ce qu'on voit aussi dans la série, c'est une chose très précise. C'est cette section particulière de policiers qui sont à moto avec des pics qu'on appelle les voltigeurs. Ils étaient très connus dans les années 70. Ils étaient censés nettoyer les fins de manifestation. Ils ont évidemment interdiction de descendre de moto, ce qui s'empresse de faire concernant l'affaire Malik Houssekine. Après le procès contre les policiers, cette section a été dissoute. Est-ce que vous saviez qu'elle a été reformée?
Ouais, sous un autre nom finalement.
Oui, sous un autre nom.
Avec des motos plus classe. Hein. Mm-hmm.
Des motos,
on les voit
un petit peu plus que, voilà, depuis les Gilets jaunes.
Absolument.
C'est-à-dire à l'occasion des Gilets
absolument.
Jaunes.
Absolument.
Ouais, si vous allez jusqu'au bout des manifs,
mais, ouais. Absolument. Discrètement, mais elle est réapparue sous une autre forme en fait, cette section. Ouais.
Et ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'on dirait que les manifestations ont perdu la mémoire. C'est-à-dire qu'ils se sont beaucoup battus pour que ça disparaisse et qu'ils sont revenus et que personne n'a crié. Personne n'a hurlé, il n'y a pas eu, il y a eu personne, même pas des députés de gauche, pour dire mais qu'est-ce que vous faites?
Mais j'ai le sentiment que c'est un sentiment général. C'est-à-dire qu'on crie moins, malheureusement, en fait. Sur beaucoup de choses, on a vu ça aux dernières élections. C'est-à-dire que même l'ampleur des manifestations contre la loi de Vaquet, c'était le contexte politique de l'époque, c'était énorme. Et j'ai le sentiment qu'on est un peu moins réactif aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qu'on...
Voilà. On perd un peu la mémoire. Perd un peu la mémoire. Et cette série, Houssekine, nous la rafraîchit magnifiquement. Faizagen avec nous. Émeric Lompré, là aussi.
Oh là
il allait parler d'actu.
En parlant de rafraîchir.
Bonjour à tous, vous allez bien?
Oui.
Bonjour Émeric Lompré.
Oui,
c'est pas vu depuis deux semaines. Donc là, j'ai bien eu le temps de regarder l'actualité et de faire une analyse politique et sociale bien léchée. Attention, c'est parti. Je vais essayer de battre mon record. Guillaume, tu me chronomètres avec ta montre à gousset, là. Sale vieux. Alors, top. Macron, il va changer son gouvernement, mais ça va rien changer parce qu'en fait, il va choisir des gros cons libéraux qui s'en branlent du partage des richesses et du dérèglement climatique et qui pensent que quand on veut, on peut. Top, combien?
10 secondes.
Oh yes, putain, pas mal. Je suis vachement fort. Je suis fort en actualité. Et peut-être un jour, je vais présenter le 20h sur TF1. Après, je dirai les filles dans mon bureau. Mais il est 2h du matin. L'actualité n'attend pas. Non, bon, j'ai un peu menti. J'ai pas trop le temps de regarder l'actualité. En fait, la dernière actualité que j'ai vue, c'était le rassemblement de la gauche. Après, j'ai vu qu'il y avait pas Poutou dedans. Je dis, ah, c'est bon, je m'en branle. Et s'il n'y a pas de pois chiches dans un couscous, c'est ni plus ni moins qu'une vulgaire ratatouille. C'est beau, hein, c'est beau. Et peut-être qu'un jour, je vais être présentateur de Vol de nuit. Les filles dans mon bureau, mais il est 2h du matin. La littérature n'attend pas. Non, mais j'ai pas regardé l'actu, c'est nul. En plus, je suis devenu éco-anxieux. C'est quand t'es dépressif à cause du dérèglement climatique. À ne pas confondre avec égo-anxieux. Ça, c'est quand t'es dépressif à cause d'Alex Vizorek. Non, mais chez moi, à Lille, ça fait 2 mois qu'il y a du soleil. Hein. Il ne pleut plus. C'est hyper problématique. Hein. Déjà, parce qu'on commence à puer. Hein, je te jure. T'sais, on est dehors avec notre gel douche. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, on commence à s'adapter. Hein. Il y en a qui coupent leurs pantalons pour faire des pantacours. Il y en a qui transforment les bonnets en casquettes. Moi, j'ai sorti les enfants du congélo pour faire de la place pour les glaces. Mais du coup, il y a plein d'enfants qui viennent m'en réclamer. Je suis pour les mettre. Non, mais on ne sait plus quoi faire. Là, si, on a commencé à faire du... On joue au molki. C'est le jeu où t'es là. Tu as fait 51, c'est trop. Tu redescends à 25. Quel jeu de gros con. Putain, c'est vraiment la pétanque pour les gens qui disent j'ai ramené des petits légumes coupés en morceaux dans mon triporteur. Non, mais là, c'est chaud. Là, j'ai une grosse pensée pour tous les agriculteurs. Hein. Les vrais, hein, pas ceux qui ont une chemise en lin et qui disent je fais de la biodynamie, quelqu'un veut des petits légumes coupés en morceaux. Oui, moi. Non, désolé, la lune était en Saturne. Les elfes cosmiques n'ont pas pu polliniser ma parcelle. Ok, vous les chips? Ah ouais, je vous en supplie, je crève la dalle. Non, j'ai une pensée pour les vrais agriculteurs, ceux qui chient du tabac et qui vivent avec leur mère. Là, ils vont galérer. Hein, parce que bon, déjà, avant, c'était pas la joie non plus. Hein, parce que c'est quand même le métier avec le plus de suicides. Juste après, c'est chroniqueur chez Nagui et fan de Manuel Valls. Non, mais les agriculteurs, ils sont éco-anxieux. Ils ont raison. Et encore, nous, ça va, parce qu'on n'est pas pakistanais ou indien. Mais là-bas, ça fait 2 mois qu'ils sont sur Tamostavitch à leur tournante. Alors, si t'es une pizza, c'est cool. Si t'es un humain, c'est chiant. Et le pire, c'est que la semaine dernière, j'ai eu un article dans National Geographic. Il disait que l'heure n'est plus aux solutions. L'heure est à l'adaptation. Alors, je vais m'adapter. À partir de la semaine prochaine, tout le monde vient en slip. Voilà, que ça n'aura pas trop chaud. On fera l'émission dans mon bureau à 2h du matin. Charline, Juliette, Clara, allez, la planète n'attend pas.
Allez.
Merci d'avoir écouté.
Émeric Lompré.
Allez, d'accord.
Ah, j'ai dit ça?
Oui.
Ah, je m'emballe avec Émeric souvent. On peut aller vous voir jouer, Émeric, ce samedi à Bétoncourt.
Oui, ça ne remplit pas.
C'est à côté de Belfort. Je comprends pas, c'est pas possible.
Mais c'est parce qu'il n'y a pas d'habitants. Je sais, je viens de là-bas. Moi.
Ah bon?
Mais oui, c'est pour ça.
En Bourgogne, c'est pas
le problème est pas mal. C'est pas notre faute, Émeric.
Le spectacle d'Émeric Lompré aussi. Celui de Jamil Le Schlag aussi, tiens. Je vais tous les
voilà,
citer comme ça.
Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien, Jamil Le Schlag.
C'est pas mal.
C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal.
Il est beau gosse en plus, hein. J'ai un autre beau gosse sous la main. Bertrand Belin.
Oh, je préfère Jamil.
Ah bah, pas de mal. On a lancé le disque, c'est trop tard.
Je viens d'une longue lignée d'ivrognes. Trouble fait, gâcheur de noces, épouvantail d'abrubus, maître de chien, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, rongeurs de frein. De châteaux renversés, chers à des dalles, desquels j'ai hérité de tout et que dalle, tout, tout, que dalle. Serpents, figures locales, desquelles j'ai que dalle. Tout, tout. Que dalle, tout. Tout, tout. Que dalle, tout. Que dalle, tout. Tout, tout. Tout, tout.
Le Bertrand Belin de la playlist Que dalle tout sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Faïza Aguen est en notre compagnie. Elle est romancière et scénariste, notamment de la série Oussekine, qu'on peut voir à partir d'aujourd'hui sur Disney+. On va en reparler, bien sûr, de cette série. Et Guillaume Meurice est là aussi.
Ouais, bah aujourd'hui, chronique pas drôle, parce que Jeannot est parti. Jeannot, Jean Castex, petit ange du Gers. Depuis qu'on a reçu Didier Gustin, je suis à fond sur l'éducation. Il doit nous regarder de là-haut. Alors moi, je suis un petit peu ému. Je vais vous dire, j'aime pas les départs. Quand Aymeric va partir, je vais être triste.
Quoi ?
Non, mais je vous laisse lui annoncer, Charline. Lui dites pas que vous préférez Jamil Lechlag. Il est pas prêt pour la vérité. Mais je pleurerai à votre pot de départ, Aymeric, parce que c'est moi qui vais couper les oignons pour la salade. Mais en attendant, parlons de celui de Castex. C'était hier, ainsi que celui de son gouvernement. Hein. C'est vrai que ça craint. Tous les humoristes là de France, surtout de France Inter, vivent désormais dans l'angoisse. Imaginez si Marlène Schiappa se barre. 95% du journal de 17h17.
C'est
foutu. Hein. Plus qu'à mettre la clé sous la porte, sans compter le manque à gagner pour les lisseurs brésiliens. Non mais c'est vraiment grave. Imaginez si Jean-Baptiste Lemoyne partait.
Qui ?
Ça m'a fait le même effet que vous. Non, on a du mal à se l'imaginer, quoi. La stupeur, on apprend son existence et son départ le jour même, parce que c'est hyper dur. Imaginez si Roselyne Bachelot était plus là. Qu'est-ce que... Je vais pas arriver au bout de cette chronique. J'y arriverai pas. Bon, c'est dur pour tout le monde. Accrochons-nous. Je sais, je suis allé voir les gens ce matin pour parler. Déjà, on va parler de Jean Castex. Jeannot.
Il avait un bel accent.
C'est vrai, c'est bien ça.
Il avait un accent régional qui me plaisait bien.
Ouais.
Et puis, il est du sud-ouest.
Ouais.
Et c'était encore mieux.
Et qu'est-ce que vous retenez de son accent ?
Il n'était pas photogénique.
Voilà, bah, je crois qu'on a fait un bon bilan de Jeannot à Matignon, un homme avec l'accent, mais pas photogénique. Oui, c'est pas moins intéressant qu'une analyse de BFM TV. Hein. Vous voyez, on est bon aussi là-dessus. Essayons quand même de creuser un peu plus loin.
C'est un homme compétent.
Ouais.
Mais qui fait partie du gouvernement Macron, sur lequel j'ai beaucoup de regrets. On sait très bien qu'il ne fera pas barrage à des questions qui pourtant sont essentielles dans la relation entre les hommes.
Ah, c'est-à-dire alors ?
À l'islam.
Ah merde, oh, putain, j'avais pas vu venir. Je m'étais relâché, j'étais pas sur le coup, j'ai pas vu dire l'islam. Oh là là, le voilà qui arrive. Alors c'est vrai que Jean Castex, il a pas bien pris position contre les musulmans. Il a laissé ses ministres le faire, hein, qui ont bien gadé le malaisé l'extrême droite, notamment un des ministres préférés des Français.
Le Blanquer.
Blanquer, il vous a plu ?
Oui.
Pourquoi il vous a plu alors ?
Il a décidé de changer et malgré tous les mouvements, il a continué.
Est-ce qu'il a changé l'école en bien ?
Ça, on ne peut pas le dire.
Oui, ça, on ne peut pas le dire. Ça, on peut juste dire qu'il a changé. Et il a changé. Et ça, c'est bien déjà de changer. Est-ce qu'il a changé l'école en bien ? Eh bien, je laisse la réponse à tous les profs qui sont en train de nous écouter en ce moment hein, et qui viennent de se planter une fourchette dans la main pour penser à autre chose. Tiens, un autre que cette dame aime bien.
Darmanin était bien.
Darmanin, vous l'aimez bien ?
Mais c'est pareil, il a bien tenu. Non, il a bien tenu.
Il y a cette histoire d'agression sexuelle.
Oui, mais bon, c'est pas prouvé tout ça. C'est assez facile. Oui, quelques années plus tard, de se souvenir que quand on a été demandé un logement, on a eu des petits ennuis.
Est-ce que c'est pas gênant quand même d'avoir un ministre de l'Intérieur mis en cause dans une affaire comme ça ?
Écoutez, on aurait pu le penser, mais non.
Voilà. Mais oui, parce que c'est vrai qu'on aurait eu tendance à penser ça. Et en fait, mais pas du tout. Et ça, s'est pas joué à grand chose. Voilà. Moi, je me dis que quitte à prendre un mec comme ça, peut-être prenons ta Abouaf directement. Allons-y, vu que Zemmour se présente aussi. A priori, c'est vraiment open bar. Mettons Michel Fourniret au Quai d'Orsay. Pas de problème avec ça. Tout le monde est bien détendu. Alors, on va voir déjà qui Manu prend en premier ministre, hein. Qui le peuple de France souhaiterait, tiens.
Moi, je pense qu'on devrait mettre un général.
Où ça?
Premier ministre.
Ah ouais?
Oui.
Un militaire alors?
Ah oui, oui.
Est-ce que ce serait un bon signal quand même de mettre un militaire
Bien sûr, pour le maintien de l'ordre ou autre, oui.
C'est pas con, l'armée pour le maintien... Bah, ils savent faire. En ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu petite bite, hein. Ça arrache des mains et des yeux. Non, c'est pas terrible, faudrait des vrais spécialistes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre par exemple comme ministre de la Justice?
Pareil, un militaire.
Ministre de la Justice, un militaire aussi.
Oui, un militaire aussi.
Bah, des militaires partout alors.
Mais c'est normal.
Mais alors c'est un gouvernement militaire, là.
Bah pas forcément.
Ah, bah, déjà, s'il y a un militaire Premier ministre, un autre à la justice, on se doute que ça va pas être Sandrine Rousseau à Beauvau. Hein. je pense. Quoi. Louise Michel aux affaires sociales. Bon, du coup, j'avais une dernière question.
Ministre de la Culture, est-ce qu'on met un militaire ?
Ah non, on met des cultivateurs. Alors, moi, je dis qu'on met des gens du métier, on met des cultivateurs, des agriculteurs.
De la culture.
Mais c'est pareil, c'est le même monde. C'est le même monde. Ouais. C'est, voilà.
Oui. Non. Oui, non, mais c'est vrai, après tout. Non, mais il y a un point commun. Les navets, déjà, que le cinéma français produit régulièrement. Et pour le reste, bon, on ne se fait pas d'illusions. Hein. On sait bien que les grosses truffes vont être grand remplacées par d'autres grosses truffes. Levez les yeux et regardez les champs, comme dirait l'évangile selon saint Jean. Moissonnez le blé et filez-le au MEDEF, selon saint Jean. Jean Castex, bien sûr. Hey,
merci Guillaume Meurice. Vous aurez des jouets tout neufs la semaine prochaine.
Oh là là, on a hâte.
On a hâte de savoir. Oh là 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 là, on est tout excités. Faïza Gay, dans notre compagnie. Et on va aborder cet autre thème. Ne dites pas à ma mère que je suis coach de vie. Elle pense que je vends des missiles nucléaires à la Russie. Coach de vie est une activité controversée et très lucrative. Alors désormais, il existe des applications même sur les smartphones pour faire le job et c'est votre téléphone qui devient votre coach de vie, donc votre hydratation. Arrêtez de fumer ou vous envoyez des encouragements. Allez, je vais demander en régie à François Autouin, notre réalisateur, de lancer une appli d'encouragement, s'il vous plaît.
La positive attitude.
Ah oui.
Ah, bien sûr.
Non, on les lise direct.
On écarte les bras, on respire. Émeric, n'écartez pas trop les bras quand même. C'est Laurie, bien sûr. Et le Figaro. Laurie et le Figaro dans la même phrase, c'est toujours formidable. Qui consacre un article intitulé sous forme de citation « L'application a pris le dessus sur ma vie personnelle ». Faïza Gay, les coachs de vie en général, c'est le sujet que vous avez souhaité aborder. Vous avez dit « ça me fascine ».
Oui.
Dans quel sens ?
Mais en fait, parce que j'ai déjà lu des trucs, écouté. C'est vrai que je suis un peu fascinée par des mecs qui, tout d'un coup, à 40 ans, sont plus sûrs de ce qu'ils ont envie de faire dans la vie et décident d'aider d'autres gens qui sont pas sûrs de ce qu'ils veulent faire dans la vie et ça me fascine, voilà.
C'est vrai
je trouve ça extraordinaire.
C'est parce que vous n'êtes pas bien aligné au niveau de votre énergie holistique.
Exactement.
Ceux qui nous écoutent vont adorer, comme d'habitude. Oui. C'est pas la première fois qu'on aborde ce sujet, bien sûr. Alors, c'est soit aussi pour remonter la pente quand on a une mauvaise passe, quand on est en perte de confiance, ou pour augmenter peut-être ses performances. Les entreprises font pareil, dans le fond. Comment, Faïza Gay, vous procédez pour vous-même quand vous traversez une mauvaise période? Et que certains font appel à un coach de vie parce qu'ils sont perdus, ils ont besoin de repères, d'aide, ou parce que vous voulez être un peu plus performante, je ne sais pas. Quels sont vos trucs peut-être pour
moi,
vous en passer?
C'est un peu chiant, je suis un peu traditionnelle, les amis, la famille, des choses un peu nulles, quoi, tu vois.
Non, c'est pas nul.
Bref, j'ai pas d'appli. Mais
ouais, c'est mieux de. Pas d'appli, c'est bien, j'ai pas d'amis.
Non, mais par contre, j'ai un truc qui marche. Non, il faut rire. En fait, il faut rigoler.
Ah, voilà.
C'est très important. Donc, c'est le truc qui, même là, sur l'écriture de la série, on a quand même écrit sur un sujet qui est un peu lourd, un peu difficile. Et en fait, ça nous sauvait les moments où on a beaucoup rigolé malgré tout.
Ah oui.
Ouais. Voilà.
Oui, ouais, bien sûr. Et vos romans, de toute façon, sont aussi du social et de la comédie. Vous ne pouvez pas vous empêcher de faire de l'humour. C'est votre patte aussi.
Comme tous les gens qui. Ouais, enfin. Quand on vient d'un milieu où, justement, on a vécu des choses un peu. On apprend ça. Moi, pour moi, c'est vraiment un truc qu'on nous a transmis de savoir rire, d'avoir de l'autodérision. Ouais, c'est super important.
Et vous disiez avec les co-scénaristes en écrivant Ousekine, parfois vous pouvez évidemment, vous êtes dans le travail, vous êtes à plusieurs, rigoler. Est-ce que justement, comme c'est un sujet lourd, le poids du drame ne fait pas aussi que ça enclenche plus il y a du drame, donc pour le dominer, etc. On a envie de rigoler, quoi.
Évidemment. Moi, je me souviens j'étais petite, et vous savez, à la période des années 90 en Algérie, où il y avait ce qu'on appelait la décennie noire, le terrorisme, il n'y a jamais eu autant de blagues, il n'y a jamais eu autant de vannes. Moi, je me souviens, quand on y allait petite, mes oncles, ils faisaient plein de vannes sur ce sujet, sur cette question. Ouais. C'est quelque chose qui m'a marqué.
On peut remercier les terroristes,
merci,
d'ailleurs, pour l'humour.
Grâce à ça. Non, mais c'est vrai, voilà.
Donc, on peut dire, par Jupiter, peut être coach de vie.
Tout à fait.
Et c'est avec votre redevance. Ça coûte
mais
pas
oui,
cher.
C'est vrai.
Ça coûte
mais plus pour
cher.
Longtemps, ouais. Apparemment.
Oui, c'est vrai que cette suppression en 2022 annoncée, c'est.
Oui.
On va faire des blagues.
Voilà,
des blagues. Clara Dupont-Monod, sauvez-nous cette
Clara.
Mauvaise passe. Voilà.
Avec un peu de profondeur.
Allons, profondeur, littérature, droiture aussi, je dirais. Comme ça, on rassure tout le monde.
Voilà. Et puis un peu d'actualité aussi, puisque l'actualité, ce sont les 40 ans de la mort de Romy Schneider, l'actrice allemande, naturalisée française, disparue en mai 1982. Et j'ai là, justement, un formidable tout petit livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Adieu Romy », signé Violaine de Monclos. Alors, petit livre, mais attention, parce que comme disait Lao Tseu, les mini-tailles font les meilleures victuailles. Voilà, il n'a jamais dit ça, je viens de l'inventer, mais quand on ne sait pas, il faut dire comme disait Lao Tzu, parce que personne n'ira vérifier, et ça donne plus d'allure. Donc, adieu Romy, ça résonne comme bonjour, c'est à cause de gens comme vous que la redevance, elle va sauter. Ça, je vous le dis tout de suite, hein. On embrasse Lao Tzu. Adieu Romy, ça résonne comme bonjour, tristesse, car voici Romy dans ses derniers jours. Et pour raconter Romy Schneider dans ses derniers jours, Violaine de Monclos, elle a choisi les chemins de traverse. Elle choisit l'entourage de Romy Schneider, uniquement des témoins qu'elle a retrouvés, depuis l'habilleuse fétiche de Romy Schneider jusqu'à son agent, en passant par Louis Boson qui ouvre le livre. Alors, qui est Louis Boson? Eh bien, ce nom ne dit rien à personne. Pourtant, il présentait la matinale.
Bah, bien sûr.
Voilà.
Et le jeu des 1000 euros.
Et le jeu des 1000 euros, absolument. Absolument. Mais en 1982, c'était le 7-9 de France Inter. C'était en fait le Nicolas de Morant de l'époque. Et bien, ce sont eux, tous ses proches, qui nous renvoient Romy Schneider. Et c'est donc une narration en reflet, en fait, beaucoup plus originale qu'un portrait classique qu'a fait Violaine de Monclos. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Romy Schneider n'aimait pas beaucoup jouer sur une scène de théâtre. Elle redoutait le face-à-face avec le public. Elle n'aimait pas ça. Et quand, à un moment, elle doit jouer la mouette de Tchekhov, il y a une scène qui la terrifie, celle où elle doit monter sur un petit tabouret pour déclamer le monologue de Nina. Le tabouret, pardon, n'est pas très haut, mais c'est irrationnel. Romy Schneider, elle a peur de tomber. Alors qu'il n'est pas très haut, mais pourtant elle est terrifiée par cette idée de tomber. Et bien, plutôt que de décrire cette peur, Violaine de Monclos raconte plutôt comment l'habilleuse de Romy Schneider, qui s'appelle Monique, devait lui tenir les chevilles par derrière, je cite, Monique se glisse derrière Romy et, invisible des spectateurs, collée à elle et étouffant un peu dans les plis de sa robe, elle lui agrippe les chevilles de ses mains solides parce que Monique sait faire ce genre de choses, tenir les gens à bout de bras. Et donc vous voyez, c'est par ce geste-là, en bordure, qui dit tout que Violaine raconte du coup l'actrice, c'est l'habilleuse qui raconte l'actrice, c'est le périmètre qui raconte le cœur. Pour avoir le centre, chercher son contour, comme disait Lao Tzu, ou Feyerabend dans un de ses derniers livres, mais les experts sont encore divisés. Bon. Et c'est avec ce même procédé de lisière narrative que Violaine de Monclos dit si bien l'aspect ingérable de Romy Schneider. On ne lit pas les crises de colère de Romy Schneider, on va lire le désarroi des équipes de tournage quand l'actrice subitement s'enferme dans sa loge. Tout le monde attend, on la supplie, on lui fait livrer des fleurs, du champagne. Un jour, elle pourrit Claude Brasseur en lui expliquant qu'il joue beaucoup moins bien que son père, Pierre Brasseur. Oui, il le prend très mal. Un autre jour, elle gifle Harvey Keitel en public, il le prend très mal. Donc, mais c'est ça en même temps qui est chavirant, c'est que prenons conscience qu'elle a été odieuse. Romy Schneider, elle couvre les gens de cadeaux, de petits mots que l'auteur ici a retranscrit dans le livre. Romy Schneider demande pardon, elle revient face caméra et là, miracle, elle que personne ne reconnaît dans la rue, en fait qui ressemble tellement à Madame Tout-le-Monde, et bien soudain elle éclot devant la caméra, elle devient sublime et le réalisateur Alain Cavalier dira que son visage tient debout uniquement lorsqu'il est filmé. Donc vous voyez, ce livre qui n'est pas un exercice en fait de dévotion, mais vraiment d'admiration, c'est-à-dire extrêmement lucide sur les failles et les aimant follement. Je vous redonne les références. Adieu Romy de Violaine de Monclos est paru chez Grasset.
Oh, merci Clara Dupont-Monod. Merci beaucoup, ça donne très envie. On peut vous régoûter si on vous a pris de court. Hein, si vous êtes rentré dans votre voiture, hop, vous avez mis France Inter, vous arrivez à la fin, bam, eh ben, il y a le podcast.
Ça, c'est prêt.
Voilà. Bien sûr. Voilà. La page de Clara. De réalité dans la littérature, il vient d'être question, mais la réalité sociale et historique est l'inspiration majoritaire en ce moment des séries qu'on trouve sur les plateformes. L'histoire de NTM dans Le Monde de Demain, ou l'opération Barkhane dans Sentinelle, ou Oussekine, bien sûr, la série qui nous occupe aujourd'hui. Oh, et en son temps, le cinéma d'auteur a aussi exploité le réalisme jusque très très loin, rappelez-vous.
Daniel Toscan s'est planté, bonsoir. Et cette semaine, vous avez fait plusieurs choix que vous révélez tout de suite.
J'ai envie de faire un petit coup de folie, j'ai envie de donner un petit bonus cette semaine, si vous me permettez, au cinéma espagnol.
Alors, on va regarder tout de suite un extrait. Comment s'appelle le titre? Le titre.
Le Teresa.
Teresa, on regarde.
Teresa. Teresa. Oh. Teresa.
Oui, c'est tout à fait bouleversé.
Ah oui,
Et alors, à la fin, oui. on apprend que la dame ne s'appelle pas Teresa, mais en fait, Chita. C'est un film bouleversifiant.
Des inconnus, et là, ça n'a pas pris une ride, hein, c'est clair. Weizsäcker, voilà pour ce sujet qu'on trouve notamment dans Stratégie ou dans beaucoup de magazines. On parlait de ça notamment au moment de Sérimania, bien sûr, où Sekin a été diffusé. Quand les protagonistes sont encore en vie, est-ce qu'on redouble aussi de précautions? Est-ce qu'on s'appuie sur eux? Est-ce que là, la réalité prend encore plus corps?
Bien
quand
sûr,
on écrit.
Bien sûr. Allez, on... Même pour ce qui est de notre cas, c'est-à-dire sur l'écriture d'Ousekin, les frères et la sœur de Malik Ousekin, qui sont encore en vie aujourd'hui, nous ont fait le cadeau énorme de nous accompagner pendant l'écriture. Donc ça, c'est très précieux. Et même, j'ai envie de dire, il y a une question éthique qui se pose, puisque là, c'est en plus une histoire tragique. Donc il faut quand même avoir en tête que c'est pour eux, ça va être quelque chose de... On attend presque une forme de bénédiction quand on travaille comme ça. Et en fait, on a eu la chance de discuter longuement avec eux. Donc, il y avait la partie des faits. Et on a regardé le dossier d'instruction. On a eu accès à un peu toute la presse de l'époque. Donc ça, c'était un gros travail sur les archives. Mais il y avait aussi les archives intimes. C'est-à-dire qu'ils nous ont raconté qui ils étaient à cette époque, comment ils ont traversé ces épisodes-là. Donc, ça a été très précieux de les avoir à nos côtés aussi.
D'ailleurs, ils sont là physiquement à la toute fin. Lorsque la fiction s'arrête, vous avez choisi de mettre un plan fixe et des visages souriants de ceux qui sont encore là, de la fratrie de Malik.
On revient au réel, c'est-à-dire que c'est une vraie histoire. Il y a des gens qui ont vécu ça et beaucoup de familles encore aujourd'hui, d'autres familles qui ont été victimes aussi de cette forme d'injustice, traversent ça. Donc c'est pour prendre aussi conscience qu'il y a la fiction et après il y a la réalité qui est là.
Et ils n'ont peut-être pas eu tellement l'occasion de le raconter comme ils vont le raconter.
Pas du tout,
ça
même.
Je comprends, oui, c'est ça. C'est peut-être même la première fois qu'ils le racontent comme ça.
Absolument.
Et que c'est retraduit à l'écran. Le réel, on connaît le tournant quand on s'inspire d'une histoire, d'un fait historique. Et l'élément modificateur, on va dire, dans le schéma de l'histoire, c'est évidemment la mort de Malik Ousekin. Quand on s'inspire de la réalité, donc la mort, elle peut arriver à n'importe quel moment dans la série, ça c'est quelque chose de différent par rapport à la pure imagination.
Bon là, la question de encore une fois de la véracité des faits, elle était capitale. Donc notre là où on avait envie vraiment d'insister, c'est de montrer Malik vivant, c'est-à-dire hors du symbole. Parce que quand on choisit un personnage central dans la série qui est un personnage qui a été assassiné, qui est mort, et qu'on ne connaît surtout ou que son nom ou un visage sur des banderoles. On avait, nous, très envie de montrer, d'avoir une sorte de... Il y a plusieurs lignes narratives dans la série. Il y a une ligne qui est la ligne des dernières heures de Malik. Il y a aussi des flashbacks. Et donc, on montre que c'était un jeune homme qui était plein de vie. On le montre faire du sport, voilà, aller au concert au début de l'épisode 1, un concert de jazz. Donc, il y avait cette volonté de montrer un Malik en vie.
Ah oui, et voilà. Et donc, d'où la fiction et la réalité. Juliette Arnaud, un questionnaire de Parjupi Proust pour Weizsäcker.
Sur l'échelle qui va de 0 à 10 de l'écrivaine qui n'est pas née à Saint-Germain-des-Prés. 0 étant Constance Debré, comme son nom l'indique. 10 étant Virginie Despentes. À combien vous situez?
14,5.
J'étais à 44 pour vous, mais 14,5.
J'ai eu honte un peu de monter plus haut.
Ah non, c'était bien. Vous avez été ce qu'on appelle une écrivaine précoce. Vous avez été publiée, vous avez eu un énorme succès à l'âge de 19 ans. Quel autre enfant précoce a votre tendresse? Mozart, Macaulay Culkin ou Drew Barrymore?
Oh, Macaulay Culkin, forcément.
Vous êtes romancière, vous êtes actrice, vous êtes scénariste, vous êtes réalisatrice, vous êtes même éditrice. Mauvaise nouvelle, à partir de maintenant, vous ne pouvez choisir qu'un seul de tous ces métiers, c'est lequel?
Je suis obligée vraiment de choisir.
Oui, parce que je le dis.
Ouais, c'est vrai, d'accord, Juliette.
Coach de vie.
Coach de vie. Voilà. Merci, Charline.
Justement, moi j'avais une bonne nouvelle parce que vous pouvez ajouter un autre métier à votre palette et j'allais vous proposer coach de vie, chanteuse ou growth hacker. Alors je ne sais pas plus comment le dire que ce que ça veut dire, donc je vous propose ou chanteuse ou coach de vie. On reste sur coach de vie.
On reste sur coach de vie, chanteuse, vraiment c'est une très mauvaise idée.
Parfait.
Mais parfois il ne faut pas hésiter à se lancer quand même. Hein,
Sachez que grâce à moi, vous pouvez être un homme pour une journée. Oh, mais pas n'importe quel homme. Vous pouvez choisir entre deux de vos idoles. Oui, soit Aimé Jacquet, soit Pierre Perret.
C'est dur.
Je sais.
Aimé Jacquet, bah, le 12 juillet 98, parce que si je peux choisir d'être un homme ce jour-là.
Rien à voir avec l'accent stéphanois.
Aussi, quand même, si.
Ah, quand même, parce que votre papa a été mineur à Saint-Etienne.
Exactement. J'aime trop les stéphanois, je les salue.
Ouais, c'est les meilleurs, je sais. Si vous pouviez écrire la suite d'un dessin animé mythique de Disney, vous choisiriez lequel? Vous avez droit à tout le catalogue.
La suite, donc ouais. Un 2.
Ouais, un 2. Jean Labelle au bon moment se rendort.
Ah ouais, La Belle et la Bête.
Et il se passe quoi, La Belle? La Bête mange la Bête?
Non, c'est que la Bête, elle reste bête. Normalement, elle l'aime comme il est. Pourquoi elle le change? Après, il devient prince, il devient insignifiant, il est nul à la fin. Voilà.
Wow. Ouais, magnifique. Ouais. Allez, dernière question.
Un coach de vie aurait vraiment dit ça.
Le journal Libération fait votre portrait. Quel titre choisissez-vous? Faïsa, l'autrice qui monte en gaine? On the road again ou no pain no gain.
Est-ce que je peux rajouter une vanne?
Allez-y.
Mon rêve, c'est d'ouvrir un five, c'est une salle de foot, et de l'appeler five again.
Merci.
Merci Faïza Again. Je rappelle la sortie aujourd'hui de la mini-série Oussekine sur Disney+, qu'on vous recommande plus que chaud.
Merci beaucoup.
Et je vous dis à demain pour sans doute le dernier Jupiter sous le gouvernement Castex.
Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire.